Chapitre 3. Dans sa chambre, Nicole Ancel regardait cette sacoche qu'elle avait emportée à tout hasard pour ne pas la laisser dans la rue. N'importe qui pouvait la prendre et en faire Dieu savait quoi. Lorsqu'elle était remontée dans l'appartement de ses parents, sa mère lui avait demandé d'où elle venait. Dans un haussement d'épaule, elle lui avait répondu qu'elle était restée dans l'entrée d'escalier pour attendre l'homme de sa vie. Louise ne pouvait croire une pareille énormité, et de nouvelles remarques montèrent de quelques demi-tons les unes après les autres. On lui avait fait des allusions sur la conduite de sa fille. Elle draguait au lieu de faire son travail d'écolière. Des garçons disaient qu'elle s'envoyait des vioques. En plus, on ne l'avait pas prise en flagrant délit, mais on se doutait qu'elle l'avait chapardée dans le supermarché du centre-ville. La police était venue parler de cette histoire. Nicole ne répondit pas à ces acidités. Elle savait très bien que si la police avait fait deux ou trois visites à la maison, c'était à cause des cris et des chamailleries incessantes entre ses parents que des adolescents dont elle avait repoussé les avances faisaient courir à son sujet des méchancetés gratuites par esprit de vengeance. Relevé des rosseries que sa mère lui envoyait, c'était perdre encore et encore du temps. Donner des explications et des justifications ne servirait à rien. Serait-elle sincère que sa mère ne changerait pas ses attitudes d'agressivité, de violence, d'injustice? Cette femme en voulait à toute la terre, inutile de discuter avec des gens aigris qui font grief de tout. La durée de phrase sans suite fit intervenir Ferdinand, qui reçut à son tour les paquets de reproches, envoya Nicole dans sa chambre, poussa sa femme dans la sienne afin de la calmer à plat ventre sur la commode. Louise gémit sans grande retenue. Oh, tout irait mieux maintenant. Elle rajusta son tablier, se retira pour 3 minutes, replaça quelques peignes, et l'on se mit à table. Nicole, assez rompue à ce genre de cirque, garda une position de marbre. Pendant le repas, elle ignora de quoi parlèrent ses parents. Un voisin sonna. Il venait pour avertir Ferdinand d'un petit travail peinard à ne pas manquer le lendemain. Nicole n'avait rien entendu de ces échanges sans intérêt pour elle. Pendant tout le dîner, elle avait repassé sa leçon d'histoire, et par moments, entre les paragraphes insipides sur les luttes ouvrières au siècle dernier, lui venait l'image de son Valentin Lenoir. Avec une esquisse de sourire, elle pensait à quelle fantaisie avait bien pu l'émouvoir pour trouver un nom pareil. Certes, il n'était pas jeune, mais il y avait là une garantie de tendresse d'autant plus dénuée d'arrière-pensée qu'elle-même avait fait le premier pas. À 8h30, après les informations télévisées, comme toujours consacrées aux crimes, aux guerres et autres catastrophes, elle leva le camp pour aller s'enfoncer dans sa petite solitude. Au moins, dans sa chambre, n'était sa mère qui avait dû inspecter les tiroirs, elle éprouvait une liberté suffisante. Elle avait acquis par entraînement la capacité de se faire un silence intérieur qui lui épargnait d'un côté corder trop d'attention aux éclats de voix et aux misères de la famille. Avec les années, ou bien peu, il est vrai, elle était devenue presque sourde à ce qui ne la touchait pas de très près. Même elle n'entendait plus ce que l'on disait d'elle une fois sa porte fermée. Heureux tempérament qui forge des caractères à toute épreuve. Et cette apparence d'insensibilité n'était pas étrangère à ce qu'on pensait d'elle ici ou là, mais qui désormais ne la touchait ni peu ni prou. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans cette chambre d'une fille du petit peuple. Elle n'avait pas de ces caisses riches d'anciens jouets, ni des murs historiés de posters. Elle était agréablement à l'abri de ce mauvais goût estampillé aux USA, qui veut des motocyclistes bariolés ou des groupes de pseudo-musiciens déments, avec des têtes de crevés et des tignasses, dont se nourrissent des espèces peu fières, jamais dérangées par les poudres vendues en pharmacie. Elle avait un vieil électrophone et quelques disques anciens que lui avait donné une grand-mère. Pourtant, elle n'écoutait guère de musique. Les danses du ventre moderne ne l'excitaient pas plus que les gesticulations à la mode. Elle les connaissait pour les entendre dans les espaces commerciaux, où souvent un prétendu animateur, qui s'ennuie autant qu'une clientèle abrutie par la publicité et les cadeaux bidons, fait hurler des guitares électriques et du hachis d'anglo-saxon. Nicole était trop belle pour être de son temps. Elle avait un bureau blanc en panneaux de particules. Sur lui et contre le mur tapissé en verre d'eau uni, des livres de classe. Une lampe d'architecte. Entre fenêtres et bureaux, une bibliothèque basse, avec ses disques et ses autres livres. Des romans classiques en édition de poche, que ses profs lui avaient recommandé de lire, et qu'on n'avait pas trop rechigné à lui acheter. Il y avait la panoplie voulue par les PGC, Élise ou la vraie vie, Germinal, Une saison sèche et blanche, Moi, Christiane, etc., L'étranger, et quelques autres pièces à conviction pour dégoûter à tout jamais de la littérature les générations sacrifiées sur l'autel des réformes, toutes plus nocives à mesure de leurs suggestions. Quelques autres volumes hérités de la grand-mère au disque, de Loti, un Henri Bordeaux, un Pierre Benoît, un Anatole France, un Martin Dugard. Ah, il y avait aussi un Harbour. Celui-là, elle l'avait subtilisé dans la grande surface. Joris Karl Wismans avait un nom marrant. Les 50 premières pages lui avaient donné des mots de tête, mais alors elle avait abandonné. Mais elle était très forte dans les sciences. En face de son bureau, son lit. Il avait quelque chose de monastique, fait au carré, une couverture grise, un dessus en piqué rempli de capoques, un vieil ours, jadis marron, aujourd'hui épluché, et que le matin glissait sous ses draps comme son traversin de nonne. Au pied du lit, une armoire penderie en tubulure à billets de plastique, décorée d'une imitation toile de Jouy, avec un pêcheur que regardait tendrement une bergère 18e et son inévitable mouton. Sur le mur, au-dessus du lit, une gravure en couleur sous vert montrait un Jésus au cœur sanguinolent ornementé d'une gloire. Nicole était baptisée. Ce soir-là, sur la moquette, à droite de son bureau, elle avait posé la sacoche de Valentin Lenoir. Elle s'était assise sur son lit et sagement la regardait, vue par la tranche. L'homme fantasme avait fui subitement. Elle ne s'expliquait pas cette lâcheté doublée d'une rupture sans motif. Car elle ne lui avait rien dit qui pouvait paraître désagréable. Il faudrait alors qu'elle lui rapporte cet objet pour elle encombrant. Si sa mère venait fouiller dans sa chambre, elle la trouverait et ajouterait l'idée de voleuse au portrait peu reluisant qu'elle se faisait de sa fille. Demain, elle irait un passe des Campanules et sonnerait à tous les numéros. Valentin lui avait dit un nom différent de celui qu'elle croyait, mais aucun souvenir. Si elle ouvrait la sacoche pour savoir. Nicole se dressa, prit la poignée, posa le mystère sur son bureau et ôta la bride de cuir à fermeture automatique. Des dossiers. Elle prit les chemises et commença à les consulter, des lettres de commerce, des calculs incompréhensibles, des brouillons à l'encre noire agrafés ou joints avec des trombones. Il y avait des dizaines d'entêtes, des noms de sociétés, des contrats, des factures groupées de moteurs électriques, des commandes de camions de lapins, d'interminables bordereaux de livraison pour des andouilles, trois carnets de traite pour des tuyaux d'arrosage, des postiches, il faudra vérifier, des pots de tatou. Sans se poser de questions supplémentaires, Nicole prit ce fatras qu'elle remit en place tant bien que mal dans les chemises et, quand elle s'apprêta à remettre les dites chemises dans la sacoche, elle aperçut au fond de la première séparation un portefeuille. Elle sentit que le sang lui montait au visage. Victorieuse de son hésitation, elle le prit, s'assit devant son bureau et ouvrit avec précaution cette boîte à secrets. À gauche, le premier document était un permis de conduire au nom de M. Charles-Maxime Irénée Gibou, né le 30 octobre 1940 à Bilieu, département de l'Isère. Délivré par la préfecture de la Seine, faite à Paris le 4 novembre 1965. Ah, c'était un dauphinois, mais il avait vécu à Paris. Photomaton, ce genre de reproduction des têtes n'est que rarement à leur avantage, mais décidément, ce monsieur était un très beau garçon, et Nicole s'en troubla fort au point que son désir redoubla de le revoir à tout prix, dans une autre lumière. Il y avait aussi une carte d'identité, qui ne lui apprit rien de plus qu'une carte grise, un carnet de chèques postaux et une carte de la sécurité sociale. Une photo de vieille dame devait représenter sa mère, probablement. Un billet de 200 francs. Bon, bien, demain, elle porterait tout ça au 17 dans l'impasse. Un mercredi après-midi, elle aurait le temps. À 11 heures du soir, elle se coucha, mais elle n'avait guère la tête orientée au travail du lendemain. Elle repensa au prénom de ce monsieur Gibou. Charles passait bien, avait quelque chose de noble, de grand. Maximo, ça faisait bistrot du coin. Ça sentait le petit noir, le pastis, les rires gras, le tiercé, la politique. Mais Irénée, comment peut-on s'appeler Irénée? Ce prénom avait du boler à botteux avec un parfum de seringard. Il sentait le champ d'herbe folle, mais aussi le sous-bois, le pied des charmes et des trembles, quand les composts de l'hiver y préparent l'humus. C'est cela. Il était beige, comme dans les grilles nervurées des feuilles, parfois couleur de châtaigne et d'oreilles de Judas. Il avait la vibration de l'abeille toute neuve, ou la basse continue d'une très ancienne sonate que racle une aiguille de bois sur un 78 tours. Pour le dire, il fallait la voix d'une grand-mère cassée par les ans. Et Nicole Ancel sombra dans le sommeil. Le lendemain matin, rue des Lilas, fin du 51, mais sur le trottoir opposé, Charles Gibou marchait pour se rendre d'abord au commissariat de police et déposer une déclaration en règle sur la perte de sa sacoche de cuir noir avec tels et tels papiers. Il avait une pensée touffue après une nuit mal dormie et ne songea pas à diriger son regard vers le devant de ce 51 où s'était passée l'étrange rencontre de la veille. Il était persuadé que la sacoche oubliée était à jamais perdue. Il n'avait d'ailleurs aucune idée de ce qui pouvait bien être cette fille à laquelle il avait décidé de ne plus penser. Était-ce elle qui avait gardé ses papiers et le reste? L'idée qu'elle habitait dans cet escalier C ne l'avait pas effleurée. Si cette fille n'avait rien emporté, la disparition de la sacoche serait sûrement le fait d'un voleur. Pensez bien. Mais il ne s'en inquiétait pas outre mesure et continuait de marcher. À l'aube, il s'était éveillé dans son fauteuil. Juliette était descendue, avait préparé le petit déjeuner, puis gardait le même silence que la veille au soir. Il avait fait sa toilette et, comme d'habitude, il était parti à 8h15 sonnante. Déclaration, circonstances conformes à celles qu'il avait données à Juliette, arrivé à 9h20 au cabinet, il expliqua son retard, s'assit et se mit au travail. Tout était rentré dans l'ordre attendu. Installé de nouveau dans la cervelle de Charles Gibou, comme il le souhaitait de tous ses voeux. Car il n'avait pas remarqué qu'au troisième étage du 51, depuis une fenêtre, on le scrutait, passant sur le trottoir des chiffres pairs. Son béret ne l'arrangeait pas, mais il avait incontestablement le visage vu sur la photomaton. Ce long manteau noir lui donnait quelque chose d'impressionnant. Tiens, ce matin, il avait des gants. Or ça, rien de nouveau. Chemise blanche et cravate noire. Irénée avançait à bonnes enjambées vers son avenir certain d'employé bien payé. Non, ce n'était pas possible. Nicole n'arrivait pas à réaliser comment cet homme, qu'elle avait tant voulu connaître, aimer, avec lequel fuir sa vie imbécile, ce Valentin Lenoir, qu'elle avait rêvé dans le crépuscule d'hier au soir, ce Charles, qui s'appelait maintenant Irénée Gibon, dans sa tête de petite collégienne, bref, que cette silhouette tragique avait pu la changer à ce point. Mais elle avait souvent entendu sa grand-mère répéter qu'il ne faut pas juger les gens sur la mine. Sous des apparences parfois même repoussantes, se conservait peut-être un autre cœur saignant, plein de bonté, capable de racheter sur une croix le malheur du monde et de laisser tomber, du haut de ses stigmates, une goutte qui arracherait de sa misère cette Nicole Ancel, dont les yeux rougissaient, laissant aller des larmes sur sa chemise en pilou. Nicole passa un collant noir pour habiller d'un rêve le creux de son corps le plus intime et le sentir à ses lèvres. Pendant la matinée, elle l'éprouverait dans tous ses mouvements et demanderait à la caresse fluide ou pénétrante du nylon si le symbole obscur d'Irénée arrivait jusqu'à ses propres secrets. Elle enfila sa mini-jupe de toile noire, un pull rouge vermillon, un noir de chauffe qu'elle avait piqué à son père, glissa sous son lit la sacoche d'Irénée et ses pieds dans les escarpins, lia deux bouquins de classe et des notes sous un gros élastique. Un coup de peigne, et la voilà partie pour son interro du mercredi matin. Pendant les premières heures, Nicole plancha sur Auguste Blanqui, auquel elle attribua toutes les allures de son Irénée, au point qu'elle faillit l'avoir rencontré dans son siècle et sur son trottoir en train d'ameuter son immeuble. Elle avait plusieurs fois croisé les jambes, fait crisser les mailles en songeant à des aventures avec l'homme de son fantasme, mais le manque d'expérience donne peu d'imagination, et le tout resta dans les limites que pouvait espérer notre belle au bois dormant, nouvelle vague, très adolescente et généreuse. Trop de volubilis cachaient encore l'entrée de l'église, et l'abondance de leurs fleurs interdisait l'accès au saint lieu, comme dit en substance une vieille chanson. Or, dans l'après-midi de ce mercredi, deux événements presque simultanés allaient bouleverser la petite vie de M. Gibou. Toute la matinée, Juliette, malgré qu'elle en eût, avait attendu l'arrivée de la sacoche avec une patience dont elle était d'autant moins capable qu'elle croyait les dires de son mari sans leur accorder une confiance reposante. Certes, Charles pouvait n'avoir pas menti. Quelqu'un aurait trouvé la sacoche de son mari, les papiers d'identité, et par conséquent l'adresse des époux Gibou, puis aurait décidé de venir en passe des Campanules. Cela ne supprimait pas l'éventualité d'une maîtresse qui aurait pu confier la commission à un gamin contre un sucre d'orge ou une pièce d'or. Pour s'abriter d'une jalousie, toute maîtresse trouve une solution. Mais à midi, Juliette s'était rendue à l'évidence qu'il faudrait attendre encore, et dans la situation de Juliette, encore c'était trop. Elle déjeuna dans une rage qui multiplia son imagination. Pour sûr, il allait manger avec cette traînée dans un bistrot qui sert des mâchons au secteur tertiaire. Mais lequel ? Elle n'allait tout de même pas faire une tournée générale d'inspection, non par peur de se donner en spectacle, mais la déception éventuelle ne méritait pas l'effort. Oh, ils auraient pris leurs précautions. Il y avait aussi une autre possibilité que cette sale femme ait invité Charles chez elle, pour parer au plus pressé et prendre des dispositions d'avenir en accord avec lui. Il récupérait la sacoche, rentrait chez la friche, expédiait son travail de l'après-midi, et le soir, il dirait à Juliette « Oh, tu vois, un agent de police m'a apporté ma sacoche, qu'un inconnu avait déposée au commissariat. J'avais raison, il fallait pas t'inquiéter. » Dans son esprit habité par le soupçon, Juliette tournait et retournait ses propres inventions et celles que Charles aurait pu forger de son côté. Qu'allait-il inventer ? Car il montrait à Juliette une inattention qu'elle avait du mal à supporter. Plusieurs fois, ces derniers temps, elle l'avait pris en flagrant délit de penser ailleurs. Plusieurs fois, il était parti pendant un jour entier de congé, disant qu'il allait voir des amis, faire du bricolage pour aider un tel. Elle n'avait pas vérifié, mais les explications qu'il avait données, certains soirs, n'étaient pas très claires. Il s'embrouillait dans la logique du temps et des lieux. Plusieurs fois, il était revenu fatigué, le cheveu en bataille, ayant oublié chez quelqu'un, disait-il, une boîte à outils qu'il n'avait pas emportée. Il l'avait laissée au garage et Juliette l'avait remarqué sur l'établi. Si c'était l'amour qu'il partait chercher, elle comprenait pas non plus. Jamais elle ne s'était refusée, et il ne trouverait pas mieux. Elle avait pratiqué toutes les positions, avait donné plus ou moins étroit, quand il était besoin, et selon les caprices de Charles, savante, voire inventive, à l'inverse de tant de femmes. Elle n'ignorait rien des parfums et des lingeries à troubler les plus résistants. Bien sûr, à la maison, comme une femme au foyer, elle avait pris un peu de tour, mais pendant les jours où Charles travaillait au bureau, elle avait songé à lui, seulement à lui, en bonne gardienne de leur bien commun. Elle avait préparé son corps, mijoté des plats, toujours prête à lui faire plaisir. Elle l'accueillait le soir en déshabillé transparent, aux ouvertures coquines pour qu'il puisse lui palper les charmes de son retour, le tenter dans les moments où elle servirait à table. Il avait profité de sa bonté, de sa tendresse, et voilà qu'il la plaquait. Dans ses furieuses jouissances, il avait crié « Ah, Juliette ! » Aujourd'hui, silence. À 3 heures, personne n'était venu. Juliette s'habilla et attaqua du talon pour se rendre au cabinet La Friche. Le chemin d'une demi-heure lui parut long. Au bas de l'escalier, elle rassembla ses esprits, prépara les raisons de sa visite et monta. Sonnette. Une femme maigre, sèche, moustachue, avec des bas tortillés et des souliers de mère abbesse, l'accueillit, le sourire en hypoténuse. « Madame Gibou, que nous vaut l'honneur, vous venez si peu. Oh, juste une commission urgente à mon mari. Je suppose qu'il est à son bureau, car il ne m'a pas averti qu'il aurait à faire un déplacement dans la journée. » Oui, il est actuellement dans le bureau de Madame la Friche pour une expertise, exceptionnelle. L'affaire est secrète entre eux. Mais enfin, reprit Juliette, quelle Madame la Friche? Car je crois savoir que les experts comptables sont Georges et Camille. La Friche et non pas une Madame. Oui, bien sûr, mais M. Camille est absent pour quelque temps, et c'est Mme Camille la Friche qui le remplace, voyez-vous. Le sang de Juliette gonfla outrageusement les capillaires de ses joues. Cette femme la Friche, mais Charles ne lui en avait jamais parlé, elle se sentit au fond d'enfoncer toutes les portes par effraction. « Bien, ajouta-t-elle, j'attends, car je ne peux remettre. » Juliette accepta le siège que la secrétaire lui avait offert dans l'entrée, et le remède à l'amour s'éloigna dans un couloir sombre. En plus, la dite secrétaire claudiquait. Charles n'aurait rien à loger dans cet échafaudage qui sentait le verre moulu. Juliette ne tenait pas en place, changeait brutalement d'assise. En fait, elle n'avait rien d'urgent à communiquer à Charles, sinon que personne ne s'était présenté au 17 pour apporter la sacoche, et les quelques minutes qu'elle aurait à attendre lui parurent d'avance plus d'un siècle à se ronger les sangs. À chaque instant, elle modifiait son projet d'entrée en matière, écoutait des bruits, tantôt de machines à écrire, tantôt de tiroirs métalliques que l'on repousse dans les classeurs. Elle essayait de surprendre une conversation, mais tout se brouillait. Les pas sur un parquet recouvraient un froissement de papier, une sonnerie de téléphone empoisonnait son oreille, attentive au chuchotement. Bon, n'en pouvant plus, prête à un esclandre, consultant sa montre et voyant avec dépit qu'elle n'avait patienté que 5 minutes, elle se mit debout, ajusta sa coiffure devant une glace en pied flanquée d'un porte-parapluie et d'une patère, puis se dirigea vers la porte à double battant, capitonnée d'une moleskine, près de dire adieu à tous ses clous. Comme elle allait forcer l'entrée de ce qu'elle croyait le temple d'Aphrodite, elle fut retenue par la sonnette, qui lui parut un déchirement. Elle se retourna et vit arriver, depuis le fond du couloir, la secrétaire au teint bistré, laquelle tapota son chignon gris jauni et ouvrit sans broncher. « Mademoiselle, vous avez rendez-vous ? Non, enfin pas exactement. » C'était une petite voix fluette et poudrée, mais Juliette, mal placée, ne voyait pas la jeune fille qui parlait. « Alors, il y a probablement une erreur, vous vous êtes trompé d'étage, » carabossa le profil de la secrétaire. « Non, je ne crois pas, » enchaîna la jeune fille. « Voilà pourquoi je viens. Si je me trompe, c'est bien ici le cabinet La Friche. » « Mais oui, mademoiselle, oui, c'est ici. Alors voilà, je sais que M. Charles Gibou travaille dans votre maison et je lui rapporte sa sacoche. » Oh, le temps n'eut pas cette fois l'occasion de s'arrêter. Juliette se précipita, bouscula le secrétaire, écarta le bâton entrouvert, toisa la fille médusée, debout sur le paillasson, et lui flanqua une gifle qui la repoussa jusqu'à la rampalière contre laquelle elle lâcha la sacoche de malheur. Juliette rugit. « Tiens, voilà pour toi, petite salope !» À 17h40 précise, Nicole replia son livre de sciences naturelles. Elle avait pris une heure pour travailler un chapitre hautement exaltant sur les dasycladales et les cordiales. Lors, elle saurait sur ces plantes tout ce qu'on peut savoir, ce qui l'aiderait beaucoup à l'avenir pour la gestion de ses sentiments. Et comme ces femmes, grâce auxquelles la vie de province ne serait pas ce qu'elle est, Nicole se leva pour venir mendier une image derrière son rideau. Elle attendait Irénée. Le crépuscule a perdu 3 minutes depuis hier, le printemps a gagné un jour, et Nicole a gardé sur sa joue gauche quelques picotements envoyés par la jalousie. Il était certain que la rencontre avec la dame à la gifle avait eu un inattendu parfait. On apprend toujours les aléas de la vie au détour d'une crampe ou d'un paillasson, et Nicole venait d'en faire l'expérience humiliante. Cependant, elle avait trop de sagesse pour se laisser choir dans la haine, même s'il peut sembler curieux qu'une fille de 15 ans puisse être atteinte par cette sagesse dont le nom vient d'être lâché. Non, son enfance n'avait rien eu de charmant, on le sait, mais cela trempe la chair et surtout le cœur, en donnant de l'entêtement dans le caractère. Chose qui la rendait l'opposé de Charles Gibou autant que l'était Juliette. Malgré tout, elle était une grande sentimentale, capable de calcul ou de basse pensée. Quand elle avait donné quelque chose, elle ne reprenait pas. Elle invitait. Charles attendait qu'on l'invite. Dans la vie, elle avançait, et lui ne bougeait pas. Nicole avait toutes les qualités pour vivre une vie jusqu'au bout, pour se lancer dans l'aventure et en accepter la fatalité. Devant les pires menaces, elle aurait résisté, sans hésiter au sacrifice suprême. Sa vie aurait eu peu de prix en balance avec sa dignité, nom de femme et d'être humain accompli. Cette semence est redoutable et forge des êtres d'exception, bien différents de ce marais pestilentiel qu'on appelle par antiphrase la société. Ce qui faisait la sagesse de Nicole, c'était en outre une patience qui parfois atteignait l'héroïsme. Elle y songeait justement quand l'ombre de M. Gibou apparut à quelques 200 mètres. Il passerait donc bien à 17h45, encore ce soir. Le cœur de Nicole battit la chamade. Il faisait un peu plus clair que la veille au même moment, donc elle verrait mieux ce visage d'un Irénée, dont l'intérêt avait décuplé depuis la gifle, et détourner Irénée de son horrible femme était pour elle une mesure de salut, de vengeance, voire de provocation. La fraîcheur de cette fin de mars recommandait de se couvrir un tant soit peu. Le temps de mettre un noir de chauffe, ses escarpins, de fixer sa barrette, elle dévala l'escalier et sauta sur son trottoir. Sans regarder beaucoup, elle traversa la rue en courant. Plus personne. Courir vers l'impasse des Cantanules pour le rattraper, lui dire, lui expliquer, enfin, tout particulièrement, sa maladresse d'être arrivée à la diable au cabinet La Friche, son imprévoyance excusable, qu'elle l'aimait de tout son cœur, qu'il ne devait plus continuer une absurdité de vivre en mécanique des temps modernes. Une autre minute, elle resta debout, les yeux dans la direction de l'impasse. Machinalement, son petit doigt vint à son oreille et lui chuchota de rentrer dans sa chambre, ce qu'elle fit sans discuter. Le meilleur guide vient de notre profondeur. Elle remit ses charentaises et s'installa pour lire en attendant le dîner des Ancelles au moment des informations télévisées. Elle ouvrit l'arrache-cœur et dès qu'elle eut le nom de Jacques Mort, son petit doigt revint à son oreille pour lui susurrer qu'Irénée allait revenir. Et si ce petit doigt avait appuyé sur la boîte d'un monstre à ressort, l'effet eût été le même. Nicole repoussa vigoureusement sa chaise et fit deux pas jusqu'à sa fenêtre. Rien. Ah si, Victoire ! Irénée revenait sur le trottoir des numéros pairs, mais en sens inverse. Nicole remit aussitôt ses vêtements et s'enfuit de nouveau, au risque d'essuyer des remarques de sa mère. Oh, peu lui importait, du moment qu'elle allait enfin retrouver l'homme qui la fascinait d'une façon si surprenante et si dénuée de bon sens. Mais les lois de l'adolescence ont du charme. Elles ne répondent pas aux exigences de la sottise humaine, qui se prend pour émanation de la raison. Elles n'ont pas ces critères douteux qui prétendent obtenir la jalouse justice quand ils n'aboutissent qu'à l'effet inverse. Elles ne veulent pas régler tous les conflits en les multipliant par cent. La loi essentielle des jeunes est de vivre dans la conformité avec le cœur. Au lycée, Nicole travaillait comme on lui disait de le faire, mais sa vie était ailleurs, dans le symbole vrai de la chose simple et dans l'impulsion. Quand elle arriva sur le trottoir d'en face, du côté des numéros pairs, Irénée avait une nouvelle fois disparu. Alors elle se mit à courir pour le rattraper. À l'angle du 30, il y a une rue qui coupe celle des Lilas. Nicole s'arrêta, essoufflée, regarda sur sa gauche puis sur sa droite, mais elle ne vit personne qui pouvait ressembler à Irénée. Et elle reprit sa course jusqu'au boulevard. Désespérée, elle observa de nouveau dans les deux directions, sans que la moindre silhouette pût lui rappeler la forme ou la démarche de l'homme en noir. Elle traversa le boulevard, scruta l'enfilade des trottoirs peu passants à cette heure, déjà tardive pour une ville de petite province. Rien. Courir encore dans un sens plutôt que dans un autre était un risque qui lui sembla inutile. Et puis, l'homme était peut-être entré dans une maison d'amis. Nicole reprit la rue des Lilas, poings serrés dans ses poches, et commença à renifler par petits coups. Et pendant qu'elle marchait, elle remarqua le trouble de sa vue et que des larmes coulaient chaudes et lentes sur la fragilité de ses joues. Par acquis de conscience, elle regarda une dernière fois dans les deux sens de la rue des Vignes et se dit qu'elle n'avait plus qu'à rentrer pour digérer sa déception. Devant l'escalier C du 51, elle s'égara sur ce gravier qu'elle avait caressé la veille au soir, sans savoir pourquoi. Elle s'accroupit pour reposer sa main sur les traces visibles où s'enfoncèrent quelques gouttes venues de son visage rougi et ridé. À quoi bon ? Elle rentra et reprit sa place pour le dîner à peine commencé. Ses parents ne lui firent aucune réflexion. Calme, elle écouta s'écouler le flot du crétinisme international, l'étalage de la misère journalistique et patentée, la météo. Quand parurent les réclames pour les couches culottes, l'urine des bébés et les papiers cuits, elle desservit la table, fit la vaisselle et dit un bonsoir évasif. Nicole s'étendit sur son lit, mais dès qu'elle reprit sa lecture de Boris Vian, ses larmes commencèrent à couler, et elle ne put continuer de glisser son regard sur ce texte insolite. Clémentine lui était ennuyeuse. Elle essaya de se concentrer sur cette aventure d'hier et d'aujourd'hui. Il faudrait trouver une solution. La fuite permanente de cet homme constituait un mystère. Mais s'était-il rendu compte qu'elle le cherchait? Avait-elle dit quelques mots maladroits? Peut-être ne voulait-il plus la rencontrer jamais. Ces questions idiotes, mais obsédantes, sans arrêt se posaient. Elle voulait autre chose, construire un raisonnement, comprendre qu'un homme n'ait pas voulu d'elle ni même lui parler, lui dire non tout bonnement. Il avait été probablement effrayé quand elle avait exprimé le vœu de partir avec lui n'importe où, mais quelque part dans le monde. Ce devait être aussi la question de l'argent. Il vivait à l'aise dans une maison, il avait un rang social, un emploi, une épouse folle, qui sait, mais bien réelle. Il avait peut-être un chien qu'il ne voulait pas abandonner. Il avait dû constater que Nicole était bien jeune et ne pas vouloir s'attirer des ennuis avec une mineure détournée. Pédéraste. Et toutes ces pensées fantaisistes et incohérentes fabriquaient une sorte de nébulosité où elle se perdait et qui l'agaçait au plus haut point. Ces questions tournoyaient dans un désordre qu'elle n'avait jamais connu jusque-là, parce qu'il lui semblait qu'elle avait toujours surmonté les ennuis. Fragile carapace de partout fendue, ou semblant aussi molle, soudain, qu'un ballon de caoutchouc, Nicole Ancel alla tirer ses doubles rideaux pour fuir les télescopes, envoya valser les fringues inutiles, prit les poses d'un boucher pour déglisser ce collant noir qui ne lui avait pas appris grand-chose. Longuement, debout, elle se caressa les seins, chercha de l'ongle au creux de son nombril, rassembla ses jambes bien droites pour considérer ses genoux, tenta de faire se rejoindre ses pouces et ses majeurs autour de sa taille. Bof! Elle passa la vieille chemise de pilou avec des fleurs presque effacées et se coucha avec l'idée de lire encore. Et quand elle vit ce passage où Jacques Maure psychanalyse une jeune servante selon les principes de Pangloss, elle sentit de nouveau que les larmes venaient à ses yeux, mais ne comprit pas la scène. Nicole ne supportait pas de ne pas comprendre un texte. Elle relut le morceau, mais le contenu lui résista, et du coup elle se leva pour aller consulter son petit Larousse. « Voyons, psychanalyse. » Oh, elle comprit encore moins. Il était bientôt 11 heures du soir quand elle referma ce livre qui la dépassait et parfois l'énervait par sa cruauté. Elle éteignit sa petite lumière, coula ses bras le long de son corps en restant sur le dos. Elle abaissa ses paupières mouillées, attendit un sommeil qui ne viendrait pas, pensait-elle, car les réflexions de tout à l'heure revenaient et chassaient ses efforts de calme. Elle songea à se relever, attendre l'assoupissement de ses parents, prendre sa tirelire et s'en aller sans bruit. Machinalement, elle ramena ses mains sur son ventre, croisa ses doigts de gisant, puis resta fixe comme pour 100 ans, princesse de conte, svelte et noble, dans son cercueil de verre.